BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, bonnes vacances, bel été, merci d'être là, De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech, vous le savez, tous les week-ends, à la fois sur BFM Business, Radio Télé, sur la chaîne YouTube, sur l'appli RMC BFM Play, et un peu partout. Vous nous écoutez peut-être en vacances, eh bien profitez-en bien, vous avez bien raison, c'est le dernier De quoi je me mêle de la saison. Et oui, après c'est à nous de nous dorer la pilule à la plage, et on reviendra frais dispo, tout bronzé, ce sera toute fin août. Alors pour ce dernier De quoi je me mêle de la saison, on va se faire plaisir, on va revenir sur les éléments marquants de ces derniers mois dans le monde de la tech. Et croyez-moi, on a 2-3 sujets à évoquer entre Elon Musk qui a fait 2-3 trucs quand même, l'intelligence artificielle qui a accéléré avec notamment l'intelligence artificielle générative, la disparition aussi d'une marque de smartphone Oppo. Cette marque chinoise qui s'était imposée en France et en Europe, qui est en train de quitter le pays et quitter le continent. On en parlera tout à l'heure. Et puis on évoquera aussi, si on a le temps, le partage de compte de Netflix qui visiblement est en train de payer. Je vous rappelle le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous suivre. Merci d'être là. C'est parti pour De quoi je me mêle. Vous avez remarqué, on a pas mal de choses à se raconter pour cette dernière. Avec, pour commenter l'actu, cette semaine, Nicolas Lelouch. Salut Nicolas.
Salut François, ça va?
Journaliste à Numérama qui n'est pas encore en vacances.
Non, jamais, c'est pas bien.
Jamais. Un petit peu à Nice quand même.
Un petit peu à Nice, évidemment. Oui, au mois d'août.
Nicolas Lelouch, donc, et en face de lui, c'est JB de The E-Collection. Salut JB.
Salut François.
Ravi de te retrouver.
Également.
Toujours cool de t'accueillir dans De quoi je me mêle, JB, vraiment.
Toujours un plaisir de venir.
The E-Collection, voilà, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas cette chaîne YouTube, franchement déjà, honte à vous. Et puis deuxièmement, si vous êtes un fan de tech, allez jeter un œil à ce que fait JB, c'est vraiment d'excellente qualité, comme on dit. Voilà, tu me payeras après, ouais. Lydia, un petit
on
peu,
il n'y a pas de soucis.
Bon, on va faire un petit récap de l'actu, ça vous va? Parce que franchement, on a vécu une année de dingue, hein, mine de rien. Quand
pas
on
une
y
année,
pense,
six premiers mois.
Un semestre de dingue déjà.
Ouais, un semestre. Une saison, on va dire, en radio. Ouais. C'est vrai que nous, c'est septembre-juin, mais c'est vrai que cette année 2023 n'est pas terminée et toutes les semaines, il arrive un nouveau truc.
Ouais.
Et commencer par peut-être la montée en puissance de cette IA et notamment l'IA générative qui est en train de bouleverser en fait plein de secteurs, plein de métiers questionne énormément sur notre société, sur l'avenir de notre société. Franchement, c'est pas un sujet anodin, c'est véritablement une innovation de rupture. Je sais pas ce que tu en penses, Nicolas. On a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet-là. C'est vraiment, à mon avis, si on suit comme ça la frise chronologique de la tech, on marquera d'un point bien rouge la fin de l'année 2022 avec l'arrivée de ChatGPT. Hein.
Tout à fait, c'est rare en fait dans la tech. On a souvent des innovations majeures, des entreprises qui disent que là elles vont révolutionner un secteur. L'année dernière, le buzzword c'était métavers. Cette année, métavers, on a tous oublié que ça existait.
Et là, avec Apple, il y a eu un petit vaccin de rappel.
N'appelle pas ça métavers. Voilà,
en tout cas, l'idée, on sait un masque avec des trucs qui s'affichent dedans. Quoi.
L'idée d'un monde social dans lequel on interagirait le soir, elle est morte. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, elle est plus d'actualité et on est passé sur les casques, mais ça, on en parlera après.
À mon avis, elle n'est pas morte. Mais ça,
on verra, c'est un autre débat.
Je pense qu'il y a une vague d'investissement chez Meta qui est toujours en marche parce que cette technologie n'est pas encore prête, mais on aura l'occasion d'en parler. Vas-y, je t'ai coupé.
En tout cas, on est d'accord pour dire qu'on en a moins parlé en 2023.
C'est vrai.
Et à contrario, je pense que l'intelligence artificielle, ça fait partie de ces ruptures technologiques dont on va continuer de parler pendant plusieurs années. Et je ne pense pas que d'un coup, ChatGPT devienne un sujet inintéressant et que plus personne ne s'intéresse à ce qui se passe du côté d'OpenAI, de Google ou de Microsoft. Parce qu'on a vu quelque chose qui est assez rare dans ce milieu. C'est une vraie rupture technologique. C'est quelque chose qui, la première fois qu'on l'utilise, on se fait « ah ouais ». Parce que, en effet, la première fois qu'on parle à ChatGPT, on était habitué à Siri, à Google Assistant.
On se dit, le gars qui est derrière, il répond vite quand même.
Il répond très vite. C'est clairement la première impression qu'on peut avoir. On s'est souvent demandé, dans les années précédentes, pourquoi Siri, Google Assistant et Alexa étaient aussi bêtes, avec souvent pour préconclusion que malheureusement, les IA ne pourraient jamais discuter comme un humain parce que elles sont faites pour répondre à des réponses préconçues. Et là, on arrive avec une technologie qui est capable d'analyser ce qu'on lui a dit, de répondre de manière très précise. bêtise de surenchérir ouais. sur un sujet.
Et des mécanismes intellectuels étonnants. Pour résumer, tu le disais, pour écrire des textes.
C'est ça,
pour...
qui calque complètement voilà. le modèle humain. Parce c'est que ça. C'est de l'apprentissage c'est qui s'est inspiré de ce qu'on l'être humain. On a vu d'ailleurs des dérives au fur et à mesure de ces premiers mois. Avec ça a commencé par ChatGPT en novembre 2022, tu l'as rappelé François. Mais en février, on a Microsoft qui se lance dans ouais. l'arène en partenariat avec OpenAI en intégrant ChatGPT à Bing. Et là, on se retrouve avec une IA qui est tellement à l'aise et qui a tellement imité l'intelligence humaine en quelque sorte qu'elle se met à nous faire des blagues, qu'elle se met à mentir, qu'elle refuse de répondre. C'est un de mes meilleurs moments de l'année oui, sur Numérama. Sûr. C'était ces articles sur on a essayé Bing et Bing m'a insulté. Et je lui posais une question, il fait non, j'ai pas envie de te répondre. Enfin, qu'est-ce que c'était que ça en fait ? Jamais on aurait vu ça sur Siri, Google Assistant.
Mais d'un côté, c'est tellement drôle quand tu prends
c'est
du recul.
C'est super drôle.
C'est incroyable. Quoi.
C'est super drôle. On a aussi vu Google paniquer. C'est rare quand même de voir Google paniquer ouais. et de répondre à la précipitation avec ce prototype de Google Bard ouais, en février, ouais. lancé en mai aux États-Unis, puis en juillet en France. Hein, ouais. C'est tout nouveau.
Meta qui encore, rate le coche.
Meta qui rate le coche, mais qui dit oh, vous inquiétez pas, nous en fait on est tellement en avance qu'on va lancer un truc beaucoup mieux dans quelques années, il faut pas s'inquiéter. Enfin, il y a vraiment tout le monde qui s'y met. On sait aussi depuis mi-juillet, c'est Mark Gurman de Bloomberg, souvent lui, que Apple aurait en interne ouais. développé en urgence l'année dernière un Apple GPT. C'est comme ça que ça serait surnommé en interne. Ils ont aucune idée de ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas, ils ont une IA à qui on peut parler. Donc, on peut imaginer que l'année prochaine, on ait enfin un Siri qui soit capable de répondre oui. à une question de culture générale. Donc,
ou juste une question.
Ou juste à une question. Tu as raison de le dire, JB.
Mais Siri, c'est vraiment une catastrophe.
Ah, bah, c'est l'anti-ChatGPT. Hein.
Ah non, mais ça, c'est vraiment. Siri, c'est ChatGPT bourré, quoi, j'ai l'impression.
C'est super, Siri, pour. moi, j'ai une maison très connectée. C'est super pour toi.
Oui.
Qu'est-ce que c'est rapide.
C'est
meilleur.
Télécommande.
Ça fracasse Alexa.
Ça se trompe ouais. de temps en temps, quand même.
Ça, alors, ah ouais. quand ça se trompe, c'est chiant. Mais en tout cas, on lui dit éteins cuisine. Google va mettre 3 secondes. Lui, on a dit cuisine. Le E est prononcé que c'est éteint. C'est vraiment la rapidité d'exécution de Siri là-dessus. C'est assez fantastique. Mais bon, ChatGPT fait un peu plus qu'éteindre la lumière de ma cuisine. Non, tout ça pour dire qu'en effet, je pense que c'est le sujet numéro un de cette première partie de 2023 et que c'est surtout une révolution technologique comme le smartphone a pu l'être en 2007, comme d'autres ont
juste Internet,
comme les réseaux sociaux,
juste Internet, au lancement d'Internet, toi, JB.
Clairement, ouais, parce que je pense que, alors moi personnellement, je pense que nous aussi, on n'a pas connu peut-être Nicolas et moi le switch entre l'avant Internet et le nouveau, parce que nous, on est nés vraiment avec Internet. Toi, tu l'as peut-être connu.
Je l'ai connu.
Mais avant,
moi, j'ai eu
exemple,
le premier émoi de découvrir un navigateur Internet, les gars.
Ça, c'est scellé. Moi, je me rappelle de la connexion AOL qui faisait un petit bruit.
98, je me connecte pour la première fois sur Internet, quoi.
Ah oui, donc t'as ce souvenir de ta première connexion Internet.
Bien sûr. Non, mais c'était un. Tu sais, les gros écrans comme ça, les grosses télé.
Ouais, ça, je m'en rappelle.
Cathodiques,
ouais.
etc. Ah,
IBM.
Et tu voyais affiché avec Netscape, je me souviens, c'était Netscape,
Netscape
à l'époque.
Le premier navigateur.
Tu voyais des informations qui s'affichaient et tu faisais. Enfin, nous qui avons connu, moi j'ai connu le Minitel. Ouais. Bah, en fait, c'était un super Minitel en couleur avec des trucs et tout. Tu te disais, mais waouh, c'était incroyable.
Parce que du coup, toi, tu compares l'intelligence artificielle au lancement d'Internet en 98, 99.
Ah ouais, complètement. Moi je trouve vraiment que c'est une rupture et on est à l'orée, je pense d'une vraie révolution sociétale. On le voit déjà. Enfin, je sais pas si vous avez suivi ce patron hindou qui a dit qu'il avait viré 90% des gens de son entreprise. Je sais pas si vous t'as suivi ça.
Je l'ai pas vu. Après c'est pas le meilleur exemple de pourquoi l'IA est géniale pour la société.
Non, mais en fait, il y a plein de trucs comme quand Internet est arrivé, ça a aussi complètement déstructuré des métiers.
Mais oui, structurer des choses.
Je veux dire, regarde la presse, regarde, enfin, il y a plein de choses, et c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est le progrès technologique qui bouleverse, en fait, les acquis précédents. Mais bon, voilà, il faut aussi évoquer les conséquences que ça va avoir sociétales.
Ouais, non, mais ça va
et
en
sociales.
Avoir, j'espère majoritairement bon, et je pense très sincèrement majoritairement bon, évidemment.
Il y aura toujours un peu
on
de
se concentre sur ces robots qui vont remplacer des tâches humaines, qui vont faire qu'il va y avoir des licenciements, et on a toujours cette peur d'être remplacé par un robot, c'est le fantasme historique en matière de nouvelles technologies. Mais je pense que, in fine, ce que ça va apporter à la société, aussi bien à l'être humain dans son travail qu'aux sociétés plus générales, aux villes, sur plein d'aspects, c'est assez révolutionnaire. Il va y avoir de plus en plus d'usages. Il faut rappeler quand même que l'intelligence artificielle n'a pas été inventée en 2022. Il y en a toujours eu dans nos produits
qui
génèrent des albums photos
oui,
super intelligents.
Très en fait, on s'en
oui, en fait,
tu scrolles deux secondes sur TikTok, t'es en plein dans l'IA
c'est ça,
déjà.
En fait, l'IA par nature est silencieuse et c'est vraiment amélioré avec le temps. Mais là, en fait, on a cette forme d'IA générative qui va créer à notre place, qui peut discuter avec nous, qui rappelle beaucoup des films de de science-fiction à l'Iron Man avec Jarvis par exemple. Et c'est en cela qu'on a passé une étape et que maintenant que les gens savent que c'est possible. Et très sincèrement, j'ai pas honte de le dire, je pensais pas que c'était possible. Moi, il y a encore 7-8 mois, j'étais vraiment convaincu que c'était un gap qu'on pourrait pas vraiment atteindre et qu'on verrait pas de notre vivant. Je pense qu'il va y avoir des trucs très sympas.
Mais justement, pour continuer sur ça, moi j'avais un peu peur que justement, par exemple, les étudiants aujourd'hui, ils aient tout à portée de main trop facilement, comme nous on l'a eu un peu avec Internet à l'époque. Sauf que j'ai pu un peu discuter avec des professeurs dans des facultés et autres qui m'ont dit qu'ils voient très clairement et nettement si un devoir a été fait 100% sur ChatGPT. Parce qu'ils savent que ça, ils n'ont pas pris en cours, cette formulation c'est trop complexe. Donc en fait, ils voient à distance quand même ça a été fait pas par un élève de telle classe. Donc en fait, ça peut aider, mais ça va pas remplacer le cerveau humain.
Parce qu'on a toujours besoin de réfléchir.
Et ça va être une aide comme on a eu Internet qui nous a aidé.
Le truc, c'est qu'on est au début de ChatGPT. On est à ChatGPT 4, mais est-ce que demain, on n'aura pas encore une espèce de fluidité dans les propos qui feront que ça sera encore plus difficile de détecter un texte écrit par l'IA que par l'humain. Et puis aussi les profs, alors c'est plutôt rassurant ce que tu dis, mais les profs ont tellement de trucs à faire, il faut qu'en plus ils se posent la question maintenant quand ils corrigent des copies, si c'est fait par ChatGPT ou pas, tu vois. Enfin je veux dire, c'est malgré tout,
il y a un problème là-dessus.
Il y a un problème là-dessus. Et c'est vrai, alors moi la dernière fois pour tout vous raconter, j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a envoyé un texte pour vérifier, et j'ai vu tout de suite que c'était écrit par ChatGPT, parce que nous, on commence à avoir l'habitude, et tu voyais les formulations, tu voyais le côté un peu... Enfin, c'est très compliqué à expliquer, mais tu sens que c'est pas un humain qui a écrit ce truc-là.
Parfois, c'est presque trop parfait aussi.
Ouais, c'est trop parfait. C'est tellement scolaire.
Tellement scolaire, voilà, c'est ça.
Mais c'est là où on verra la vraie distinction entre les personnes qui vont faire que du ChatGPT, par exemple, et ceux qui vont faire un peu de ChatGPT pour s'élever, et d'autres qui vont faire que ça.
Mais comme avant, tu faisais un peu de Wikipédia. Tu prenais un peu de Wikipédia pour bosser et pour, on va dire, apporter ta patte.
Et surtout, la réalité, c'est que moi, je pense que ces outils de chatbot sont amenés à être le futur de nos assistants vocaux. J'en parlais avec Google au moment du lancement de Bard.
Évidemment.
Et eux me disaient que, par exemple, la question qu'ils se posaient, c'est quand Google Assistant n'a pas une réponse, aujourd'hui, il dit « je n'ai pas la réponse à cette question ». Et leur question, c'est « est-ce que dans le futur, on ne devrait pas le rediriger vers Bard quand il n'a pas la réponse ?» Comme ça, il va faire une réponse. Ouais. Voilà, je demande à mon ami Bard et Bard répond. Je pense qu'on va se diriger vers ça.
Mais c'est Bard qui prendra le relais de Google Home, non?
À voir, parce que Google Assistant a l'avantage de répondre en local pour de la lumière, de l'heure. Est-ce qu'on a besoin de coûter, de prendre, de pomper un serveur?
Mais est-ce que c'est vraiment local?
En tout cas, la transcription de la voix.
Est-ce que tu as pas des serveurs qui pingent?
Si, il y en a toujours.
C'est peut-être pour ça que tu mets 2-3 secondes.
Alors que Siri, pour le coup, fait des choses beaucoup plus localement.
C'est pour ça. Hein.
Mais en tout cas, c'est pas du tout les mêmes technologies. Donc je pense que les deux sont un peu amenés à cohabiter parce qu'il faut de la réponse ultra rapide, etc. Mais je pense qu'il va y avoir une évolution intéressante.
En plus, il y a même les extensions qui arrivent sur Google Bard.
Ils vont arriver,
je crois, cet été ou un peu plus tard. On va pouvoir les dire, je vais partir en voyage à tel endroit, je vais faire tel truc. Il va prendre les billets d'avion, les billets de train, les expos. Et il va tout nous sortir.
Mais ça va être la claque.
Google a plein de services. Il y a Google Flight, Google Maps, Google Photos.
Et t'imagines le jour où tout va être connecté, ça va être chouillant.
Il y a aussi cet aspect, c'était ce que je voulais dire avant, j'avais oublié, j'ai eu un trou de mémoire.
Ça arrive, Nicolas.
Je voulais dire que certes, ChatGPT a tendance à être vu comme un chatbot à qui on parle, mais c'est pas forcément la fin ou le modèle final des IA. Ce qu'on voit avec Microsoft, c'est que là, ils ont le projet de commercialiser, je crois, $30 par mois, ce qu'ils appellent Copilot, qui est une intégration de GPT-4 à leur logiciel. Donc, en fait, on est dans Microsoft Word et on dit, est-ce que tu peux écrire une lettre de motivation pour telle entreprise? Ça l'écrit, tu peux modifier tel paragraphe. Tu dis, est-ce que tu peux convertir ça avec un PowerPoint, avec une photo de moi, avec une photo de mon travail, et ça va le convertir tout seul. Et, de ce point de vue-là, on n'est pas sur quelque chose qui fabrique à notre place, on est sur quelque chose qui va nous aider. C'est-à-dire que nous, on va lui dire ce qu'on veut, précisément, et lui va générer.
Oui, l'humain,
je pense que c'est plutôt pareil sur l'image. On a vu tout à l'heure Adobe Photoshop avec Firefly qui génère des images, qui peut agrandir des images. C'est impressionnant. Moi, je suis fan de ce que fait Photoshop. Là, on le voit à l'instant. On a juste à lui générer, on dit vas-y, mets un autre sol, rajoute un animal, et il va le rajouter, et ça marche vraiment super bien. À la fin, cette IA générative n'est pas forcément censée faire ce qu'on fait à notre place.
Non, mais c'est clair.
Ça peut nous améliorer, et là-dessus, j'y crois, mais tellement.
Et puis il y a des choses incroyables qui se préparent, notamment dans la santé, et qui continuent en fait d'arriver dans la santé, parce que l'IA est, enfin moi j'ai la chance dans Tech & Co de recevoir plein de startups qui travaillent justement sur l'IA et la santé, et on se prépare à vivre des révolutions. On va avoir des médicaments qui vont arriver beaucoup plus vite, des traitements ciblés pour certaines personnes, parce que aujourd'hui, je sais pas, on a un cancer, on a tous à peu près la même thérapie. Mais demain, grâce à l'IA et grâce à la puissance de calcul et à l'intelligence, on pourra créer un traitement spécifique pour chaque personne, parce qu'on aura identifié exactement ce dont elle a besoin. Donc ça, c'est une révolution. Bien sûr que ça va augmenter notre société en quelque sorte, mais il y aura des conséquences sociales, c'est certain. Mais c'est comme ça. Et puis on n'y peut rien de toute façon. Il faut l'embrasser.
C'est la pièce finale à une révolution technologique personnelle. Je pense, tu parles de la santé. Quand tu dis ça, je pense aux montres connectées qui captent énormément de données sur notre santé aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que nous, on n'en fait rien de ces données, parce que on est au coup. Ça nous dit quand il y a une urgence, mais on n'a pas le niveau de connaissance pour mélanger tout ça et pour en définir quelque chose sur nous. Demain, cette intelligence artificielle, elle va permettre de mélanger toutes ces données, de les interpréter, de conseiller des conseils nutrition, de dire ce qu'il faut faire en sport pour s'améliorer, parce qu'en fait, ça va être le cerveau qui manquait pour relier tous ces éléments entre
eux. Est-ce qu'il n'y a pas des risques que ça se trompe?
Si, mais c'est pour ça que je pense que ça va prendre son temps. Et on voit bien que l'approche de Google par rapport à OpenAI, d'aller hyper lentement, de prendre son temps, de mettre un milliard de disclaimers toutes les 10 secondes pour dire attention, Bard peut beaucoup se tromper, Bard invente. Donc,
il y a marqué Bard expérimental.
Bard expérimental. Donc on y va vraiment petit à petit. Il y a en effet des risques que ça se plante, mais au fur et à mesure, enfin, il vaut mieux finalement un outil qui est approximatif que rien du tout, et débrouille-toi avec ces données-là.
L'IA, on arrête là. Il nous reste 10 minutes. Je pense que Elon Musk mérite quand même bien 10 minutes de débat.
Ou 2h30, je sais pas.
Avec JB Dico quand même. Parce que là encore, hein, s'il y a une personne qui a créé l'actualité, qui a fait le buzz, qui a énervé les gens, qui a aussi émerveillé parfois, et c'est ça la personnalité d'Elon Musk. Elle est tellement contrastée, tellement ambivalente, j'ai envie de dire, et paradoxale, que on est obligé de l'évoquer avec là aussi une actualité incroyable.
Oui, 2023, c'est l'année où j'ai décidé de dissocier les entreprises Elon Musk d'Elon Musk, parce qu'il y en a marre en fait, et je pense que toutes les personnes qui sont fans de Tesla, SpaceX devraient faire de même. On peut aimer ces entreprises qui sont fantastiques sans dire que Elon Musk est parfait et que c'est l'entrepreneur de référence qu'on doit tous suivre. Cette année, j'ai listé tout à l'heure tout ce qu'il a fait depuis janvier 2023. J'ai tapé Elon Musk Numérama, on a une page où on liste tous les articles. Je suis allé au 1er janvier et j'ai remonté tout depuis. Donc dans l'ordre, il a mis fin aux API de Twitter qui permettaient de partager des comptes. En tout cas, il les a vendus à des prix tellement élevés que il y a plein de comptes qui ont dû fermer. Toutes les applications tierces qui ont fait le succès de Twitter, je pense à Tweetbot, Twitterific, qui faisaient le succès, il les a fermés du jour au lendemain, il les a même pas prévenus, il a juste coupé l'accès, il leur a pas répondu. Il a lancé Twitter Blue en France de manière illégale, parce que le prix est affiché sans TVA, ce qui est complètement interdit évidemment en France, et il a fallu des mois pour que ce soit corrigé. Il a boosté ses propres tweets aussi, parce qu'il n'était pas content que Joe Biden ait eu plus de vues que lui sur un tweet, donc du coup il a changé l'algorithme pour que tout le monde voit ses tweets. Bon, ça ils l'ont rectifié, ils l'ont changé un petit peu après. Ils ont mis fin à la double authentification par SMS, en tout cas ils l'ont réservé à la version payante. Ils ont mis fin au badge bleu des vraies personnalités, et maintenant c'est uniquement payant, les gens qui payent c'est que les fans d'Elon Musk. Donc, et maintenant donc vous allez sur n'importe quel tweet, tous les premières réponses c'est des gens certifiés, généralement des gens qui pensent tous pareil, donc on vit dans une bulle, hein. Twitter est devenu une bulle avec une pensée quasiment unique. Il y a eu des films piratés, les
puis n'importe qui peut avoir ce badge de certification, c'est ça le
n'importe
problème.
Qui peut l'avoir. Depuis peu maintenant, les tweets sont limités par jour à ce qu'on a le droit de voir sur la plateforme. Je disais, les pubs aussi maintenant sont très mauvaises parce que les vrais annonceurs sont partis, donc souvent c'est des arnaques, des faux jeux, des crypto-monnaies. Et maintenant il a décidé de payer les créateurs qui font le plus de vues sur Twitter, et les gens qui font le plus de vues c'est les gens qui payent, et donc les gens qui payent sont souvent les gens qui pensent comme lui. Donc en fait il paye des gens à faire des pubs pour des crypto-monnaies ou pour balancer des idées un peu controversées, parfois à la limite de l'extrême droite. Donc voilà le bilan d'Elon Musk sur Twitter. En 6 mois, il fait un peu peur. Et en même temps, on adore tous Elon Musk pour Tesla. On veut qu'il installe une usine en France. SpaceX a encore battu des records. Donc c'est un vrai paradoxe, cette personne. Et je suis toujours aussi ébahi par à quel point une personnalité peut avoir une double façon de faire les choses.
Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JB ?
qu'il y a, enfin, c'était un personnage comme il n'y a pas d'autre à côté aujourd'hui. C'est un peu comme, enfin, des sortes de gourous qu'on va suivre, que certains vont suivre pas à pas, qui vont créer des choses,
qui
vont créer des choses géniales. Et ça se trouve, un jour, il va se présenter à la présidentielle américaine, ouais, c'est vrai,
bien sûr.
Parce qu'il a tellement
c'est
de...
C'est le Steve Jobs des années 2020, on peut dire.
En tout cas, pendant longtemps, il donnait cette image.
En termes de notoriété, en fait, je parle.
Oui, c'est devenu la référence.
C'est la star de la tech.
Maintenant, avant, il a longtemps été présenté. Comme d'ailleurs, en fin d'année, il y a la biographie de Walter Isaacson qui sort. C'est lui qui a fait la biographie de Steve Jobs. Il a fait la biographie d'Elon Musk. Et quand il a commencé la biographie, c'est parce qu'il le voyait justement comme le nouveau Steve Jobs. La réalité, c'est que Steve Jobs n'a jamais utilisé son influence pour faire de la politique, pour soutenir un candidat, pour balancer des idées qui sont extrêmement controversées, je le rappelle.
Il avait sa face sombre aussi. Hein,
il avait sa face sombre, mais il n'utilisait pas son influence de cette manière-là, alors qu'Elon Musk le fait.
Et puis c'était pas la même époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin,
ouais, je ne sais pas ce que ferait Steve Jobs aujourd'hui.
Steve Jobs ne s'exprimait pas de la même manière à l'époque.
Fait des personnalités différentes. Mais en termes d'audience et de respect qu'en ont certains, c'est sûr que les deux personnalités se rapprochent.
Et quand on voit que Twitter est quand même utilisé par tout le monde, même par les chefs d'État qui font des annonces principales majeures sur Twitter. Si Twitter finalement met en avant plus de tweets qu'autre chose, enfin c'est méga dangereux. Surtout par exemple à l'approche des présidentielles. Je crois que j'ai lu un article qui disait que ils vont limiter les achats de Twitter Blue pour pousser les tweets avant la présidentielle. Ouais,
ils veulent interdire aux candidats, aux européennes, législatives, etc.
Sinon,
d'être abonné à Twitter Blue. Mais du coup, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'être certifiés aussi. Donc, enfin, c'est un sacré, mais un imbroglio autour de cette histoire, juste parce qu'il a décidé qu'il fallait vendre un abonnement. Mais enfin, c'est super bizarre.
Après, Zuckerberg fait un peu pareil sur la certification et tout ça avec ce qu'ils ont lancé sur Instagram il n'y a pas longtemps.
Tout à fait. C'est 17 euros. Alors, tu choisis ta certification soit sur Insta, soit sur Facebook.
C'est ça.
Parce que pour 17, tu peux pas avoir les deux.
Non.
C'est débile. Ce qui est débile parce que c'est le même compte.
Ouais, mais il n'y a pas de petit profit, François.
J'en ai bien peur.
Non, au final, cette idée de l'abonnement payant, oui, elle a fait ses preuves. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est que Snapchat aussi a fait un abonnement payant et ils ont 6 à 7 fois plus d'abonnés que Twitter. Alors que pourtant, Snapchat, en termes d'utilisation, est sans doute inférieur à Twitter.
Ça, c'est vraiment la grosse surprise. Donc, ça cartonne,
l'abonnement Snapchat cartonne. Donc, en fait, le truc de Twitter, lui va nous dire, il a lâché l'autre jour que Twitter n'a jamais été autant utilisé par seconde dans le monde, dans l'application. Ce qui est une donnée qu'on ne peut pas mesurer parce que Apple l'interdit, notamment sur iPhone. Donc, le truc est complètement faux. Ouais. Il est inventé à 100% et ça a été débunké derrière. Il dit que Twitter Blue est un succès, que c'est génial, mais les cabinets d'analyse indépendants disent que non. Donc, c'est toujours très compliqué. Ouais. Il y a un truc que j'ai remarqué sur lui, il le fait de plus en plus, parfois, pour ne pas donner son avis sur un sujet. Mais il sait comment ça fonctionne. Il va répondre à une publication, par exemple, transphobe ou un truc d'extrême droite, Biden, tout ça. Et il va répondre juste 3 petits points ou concerning. Et en fait, ce qu'il sait, c'est que vu qu'il a modifié l'algorithme pour booster ses propres tweets, pour booster les comptes certifiés, il ne retweete pas. Il ne donne pas son avis, il dit pas qu'il est d'accord, mais il booste en fait l'audience d'un truc. Et il fait ça tous les jours.
Ouais, c'est clair. C'est une influence quasi, enfin, pas, c'est pas silencieuse, mais un peu pernicieuse.
Absolument, mais c'est vraiment super mystérieux à quel point cette personne est capable. Et d'un autre côté, il arrive à Vivatech, il est très calme, il va voir Macron, il est très calme. Il dit non, moi je suis en faveur des régulations européennes.
Oui, il a vraiment.
En fait, je trouve que parfois, désolé pour la comparaison, qu'il y a beaucoup de similitudes avec le comportement qu'avait Donald Trump sur Twitter, qui est de déverser toute sa haine, de s'amuser sur Twitter, d'en faire
un jeu. Il est moins virulent parce que c'est Trump c'était
heureusement, c'est pour ça que je suis désolé pour la comparaison. Je pense que Elon Musk est un peu moins virulent. Mais quand même, parfois, ça se ressemble.
Et puis, bon, il tweet parfois des trucs intéressants et quand il
tweet. Oui, c'est ce que je dis, c'est le paradoxe Elon Musk.
C'est le paradoxe. Alors que Trump, c'était pas toujours très intéressant.
Mais je pense que comme il a un peu, quand même, sur la fin, été forcé d'acheter Twitter. Peut-être que maintenant il se dit je vais m'amuser avec Twitter, c'est un terrain de jeu, je vais enlever
ça. Mais bon, c'est un terrain de jeu à 40 milliards, c'est ça le problème.
À 40 milliards. Et aujourd'hui, il y a Meta qui débarque avec Threads, qui va peut-être leur faire beaucoup de mal.
Ouais, Threads. Qui n'est pas disponible en France et en Europe.
Bon, ça, c'est une vraie erreur, d'ailleurs.
Ouais. Mais alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pour se conformer aux réglementations européennes. Et ça prend du temps. Donc, voilà.
Bon, là, maintenant, ils parlent de 2024, maintenant, pour l'Europe. Ah. Hein. Donc, pour moi, vous savez, Meta a souvent fait semblant de, si ça continue comme ça, on va être obligé de se retirer de l'Europe pour faire pression sur l'Union européenne. Et je pense que là, c'est la même chose. C'est complètement politique. Mais la réalité, c'est qu'ils sont juste en train de limiter les la possibilité pour Fred de battre Twitter parce qu'ils ont décidé de se priver d'un des plus gros marchés du monde et que c'est pour moi une très grosse erreur. Mais en tout cas, ça marche.
Un mot sur le Cybertruck, je sais pas si tu t'es un peu intéressé à ça.
Ouais, mais il y a le premier Cybertruck qui est sorti d'usine la semaine dernière, je crois bien.
Toujours Tesla, bien sûr.
Toujours Tesla. Qui a fait quand même
bagnole incroyable.
Ça fin 2019.
Incroyable.
Donc, ouais. Et après, il y a une grande question, est-ce que ça va arriver un jour en Europe?
Mais c'est vraiment là.
Parce que c'est déjà très très gros.
Mais vous trouvez pas que c'est une voiture de 1er avril?
Si, complètement. On dirait un Lego.
Ouais.
C'est un truc que tu dis, mais ok, mais c'est super, bravo.
Je pense que c'est une bonne blague.
Bonne blague, quoi. Mais non. Et alors, c'est dingue, c'est qu'il y a plein de gens, enfin, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont réservé cette voiture.
Il avait précommandé, il fallait mettre, je crois, un dépôt de $100 à l'époque, en 2019. Et du coup, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année aux États-Unis et potentiellement l'année prochaine en France.
C'est rigolo, hein, comme
si ça sort bel et bien. Là, ils ont tweeté justement tout à l'heure Tesla qui est en train de faire les tests dans le monde entier de cette voiture pour savoir si c'était justement jouable de rouler avec dans les petites rues de Nice par exemple.
J'aimerais bien l'avoir en test hein, la croiser dans la rue.
Non mais attends, c'est incroyable. Peut-être que tu vas la croiser à Nice.
Imagine sur la promenade des Anglais. Ça.
Mais je pense que ça on le verra partout aux États-Unis, ça va remplacer tous les gros 4x4 qui existent
j'espère
là-bas.
Ils ont réglé le problème de la boule de pétanque sur le pare-brise.
Déjà ils ont rajouté des
quel génie ça dit
des essuie-glaces.
Ah, mais ça c'est lunaire aussi quoi. Non, c'était le gars il dit allez vas-y balance la boule de pétanque, il explose tout. Alors qu'en fait la voiture était en théorie.
Je me suis toujours demandé si c'était pas fait blindé. Exprès, parce que cette image elle a tellement buzzé que finalement.
Ça marche encore aujourd'hui.
La preuve, on est en train d'en parler de cette image.
Mais ce qu'il y a de dingue avec cette voiture pour terminer là-dessus, c'est qu'en plus elle est pas chère. Elle est à $35.
Ils ont quand même dit Elon Musk qu'elle allait être beaucoup plus chère. Il avait fait un tweet en disant bon, on était peut-être un peu ambitieux à l'époque, mais la voiture va être un peu plus chère quand même.
Mais ça aussi, c'est le truc parce que je dis que Tesla c'est génial, parce que d'un autre côté, je suis beaucoup de communauté de fans de Tesla et les mecs, ils en ont juste marre parce que ça fait 5 ans qu'on leur promet des nouveautés pour un truc qu'ils ont payé, genre sur la conduite autonome notamment, et ça arrive jamais. Ils passent leur temps à dire ouais, cette année c'est la bonne.
il a dit,
sa personnalité, même dans son côté positif, le côté négatif d'Elon Musk parfois réapparaît. Enfin, il a ce côté mensonger qui il annonce des choses
mais en fait je pense que son cerveau va tellement vite et ça c'est certain hein, c'est quelqu'un qui n'est pas comme nous, qui n'est pas formaté comme nous mais il a dit que d'ici la fin de l'année les Tesla seraient prêtes à être autonomes. C'est ce qu'il a dit. Il a dit si tout va bien d'ici la fin de l'année. Mais il avait dit ça il y a 3 ans.
Il a dit ça en 2012, en 2013, en 2014. On avait fait un article une fois.
Chaque année, il remet à jour son tweet.
On avait mis dans le titre toutes les années, justement. Et c'était super drôle parce que le titre se tenait sur 5 lignes tellement il ment.
Je pense que toutes les voitures sont aujourd'hui prêtes à être autonomes. C'est juste les législations qui font que c'est pas possible.
C'est ça,
à mon avis, ça ne le sera jamais possible.
Après, aux États-Unis, notamment, une Tesla est quasi autonome. Tu peux te faire des centaines de kilomètres sans toucher au volant.
En vrai, on peut faire beaucoup de choses. Il y a plein de fonctions qui ont été promises, qui sont et qui arrive petit à petit. Mais bon, je veux absolument pas critiquer Tesla parce que je suis vraiment hyper fan de Tesla à titre personnel. Et j'aimerais qu'Elon Musk gère Twitter comme il gère Tesla.
Ouais, c'est ça. Et on n'a pas parlé de Starlink, on n'a pas parlé de Neuralink, mais enfin, et on n'a pas parlé de XAI.
Bon, ça aussi.
Cela dit, on n'a pas grand chose à dire puisque
rien.
On n'y comprend rien. On va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de ce De quoi je me mêle avec cette rétro bien sympathique de cette saison 2022-2023 avec le Apple Vision Pro que vous avez testé tous les deux. Ça c'est intéressant, confrontation de Nico et de JB là-dessus.
Il va y avoir
du sang, ça va être horrible. Restez avec nous, putain, ça c'est un super teasing là, franchement. Et puis vous likez la vidéo en plus, comme ça sera bien. Et Apple Vision Pro et Oppo aussi, ça c'est quand même une sacrée surprise, un constructeur chinois majeur de smartphones qui s'en va comme ça en pas chassé de certains marchés, c'est un truc de fou. On en parle dans un instant, deuxième partie de quoi je me mêle, à tout de suite.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, la deuxième partie de ce De quoi je me mêle, le dernier de cette saison, je vous le rappelle. On reviendra bien sûr à la rentrée pour votre rendez-vous du week-end dédié à la tech. Avec pour cette rétro donc, Nicolas Lelouch de la rédaction Numérama. Bonjour Nico. Et JB de The E-Collection. Bonjour. Voilà, un passionné de tech depuis de très nombreuses années que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube The E-Collection. Alors attention, deuxième partie donc pour débriefer l'actu de ces derniers mois. Et on attaque l'Apple Vision Pro. C'était il y a quelques semaines, c'était à Cupertino. Vous y étiez tous les deux. On a la chance de vous avoir tous les deux sur le plateau parce que vous avez fait le voyage, vous êtes allé là-bas, vous avez pu tester ce Apple Vision Pro qui fait partie, moi je trouve, de l'une des actualités majeures de cette année 2023 parce que Apple se lance dans une nouvelle aventure technologique avec un nouveau segment qui s'ouvre. Et quand Apple, en général, s'intéresse à un nouveau segment, tout le monde s'intéresse à ce qu'ils font, et deux, ça sent bon la réussite quand même. Après, c'est pas gagné. On se rend compte que ils ont tiré très très tôt dans cette technologie, mais j'aimerais avoir votre avis puisque vous avez testé tous les deux ce Vision Pro. Qu'est-ce que vous en pensez ? On commence par JB et puis après Nico nous donnera son avis.
Moi, j'ai été très agréablement surpris par le casque, parce que de le tester 30 minutes, sachant qu'il sortira, à mon avis, peut-être pas avant fin 2024 en France, voire même peut-être après, d'après les dernières rumeurs et indiscrétions de Mark Gurman.
Il doit arriver quand aux États-Unis ?
Début 2024. Voilà. Après, c'est large.
Il n'y a pas eu des rumeurs comme quoi il serait peut-être un peu décalé. Enfin, je crois qu'il y a des problèmes de production aussi.
Il y a de gros problèmes de production, paraît-il. Ouais.
Mais c'est entre janvier et juin 2024, donc c'est loin quand même.
Dans un an, quoi.
Ouais, minimum. Et puis en France, je pense qu'on a vraiment le temps. Mais c'est un produit assez ovni, quoi qu'on en dise, parce que ça ressemble un peu à pas grand-chose de ce qu'on a vu un peu avant. C'est-à-dire qu'on va tout contrôler avec ses doigts, avec ses yeux, on regarde. On a un écran qui reproduit son regard et son visage sur l'extérieur. On est dans un monde virtuel ou dans un monde réel en tournant la petite molette juste au-dessus. Et moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié l'expérience de tester beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur qui me disent que oui, je pense que d'ici 10-15 ans, ça va vraiment être la révolution. Et on aura tout ça sur notre tête, mais dans une version beaucoup plus légère, moins chère et pratique.
La démo que vous avez faite, elle était complète, c'est-à-dire que vous aviez pas mal d'exemples de ce à quoi ressemblera une expérience du Vision Pro.
On avait une petite dizaine d'applications, je crois, quelque chose comme ça.
Donc l'informatique spatiale qu'on explique, c'est-à-dire tu vois tes écrans de tes Mac déportés, c'est ça ?
C'est ça, en fait. On regarde avec le visage, par exemple, une application, et avec son petit doigt, on fait ça, et on sélectionne l'application, mais qu'on mette son doigt à droite, en bas, derrière, parce qu'en fait, le masque a des capteurs un peu partout, qui permettent de capter les doigts, et puis on prend une application avec son doigt, on la met vraiment où on veut, vraiment comme dans Minority Report, Iron Man et autres. C'est hyper réaliste, je trouve. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé, Nico.
Oui, je suis tout à fait d'accord. On a tous les deux deux vidéos. On a fait tous les deux une vidéo où on raconte l'expérience. Donc de mémoire, on a retrouvé sur
Numérama et sur The Collection. Ça marche ou pas d'ailleurs en termes d'audience ? Ouais. C'est des choses qui intéressent les gens.
De gros succès. Ouais. Ouais. C'est une des vidéos les plus vues de l'année pour nous. Moi, c'est peut-être une des vidéos les plus vues.
Donc ça prouve quand même qu'il y a une appétence.
C'est aussi un indicateur intéressant de
l'opinion publique. Bon, après,
c'est
évidemment,
Apple, ouais, mais...
vous touchez quand même une, on va dire, tout comme nous d'ailleurs, une cible plutôt sensible à la tech. Mais malgré tout, c'est intéressant.
Ah, c'est intéressant de voir qu'il y a eu un aussi gros intérêt là-dessus. C'était le risque, je pense, pour Apple. La première mission qu'ils avaient, c'était de donner envie aux gens de s'y intéresser. La prochaine, ça va leur donner, c'est d'arriver à maintenir justement cette envie. Et ça, c'est là où moi je suis un peu inquiet, c'est que JB vient de le dire, ça sort début 2024 aux États-Unis, potentiellement fin 2024, début 2025 chez nous. D'ici là, il va falloir qu'il lance des nouvelles générations moins chères, on ne sait pas quand ça arrivera. C'est rare en fait que on soit quasiment dans la certitude que dans les deux ans après l'annonce d'un produit Apple, le produit est sûr de pas beaucoup se vendre. C'est quand même assez rare d'aller voir prendre ce pari. J'ai aussi été bluffé. Parce que j'ai testé beaucoup de casques de réalité virtuelle.
Mais vous les avez tous testés, en fait, que ce soit les Quest, les HTC.
Le Quest Pro, moi, je fais partie des rares personnes qui l'ont aimé. J'ai vu tout le monde descendre ce produit, dire que c'était une catastrophe.
Tu l'as testé, toi, JB ?
Non, j'ai pas pu le tester, non.
Ouais. Enfin, beaucoup de gens l'ont détruit, notamment à cause de son prix qui était super élevé, tout ça.
Et qui a baissé aussi de manière drastique.
Finalement, aujourd'hui, il est autour des 1000. Donc, si on compare aux 3 500 $ d'Apple, c'est donné.
C'est beaucoup d'argent, 1000 euros aussi pour un casque.
C'est beaucoup d'argent, mais en tout cas, enfin, le produit en lui-même avait un vrai potentiel et je l'aimais beaucoup. Ce qu'on voit avec Apple, ce que je dirais, enfin, moi, c'est la nuance que j'apporte à ce que j'ai vu beaucoup sur des premières impressions en ligne, c'est que beaucoup, en fait, j'ai l'impression que c'était une découverte quasiment de la réalité virtuelle dans la description. Moi, je trouve que ce qu'a fait Apple, c'est qu'ils ont amélioré ce qui existait déjà. J'ai rien vu, si ce n'est la navigation avec les yeux et la main. Incroyable. J'ai jamais vu ça en termes de fluidité. C'est hyper naturel. Mais.
C'est-à-dire que, excuse-moi, je te coupe. Comme ils ont révolutionné l'ergonomie des smartphones avec iOS et le premier iPhone, Tu penses qu'ils ont trouvé la clé de la révolution de l'ergonomie, de ce monde qui est un nouveau monde en fait, un nouvel OS, qui est la VR, enfin en tout cas la réalité mixte.
La navigation par la vision, ça me semble la bonne approche. Enfin, c'est un casque, c'est des lunettes. Hein,
pour par la vision et par les doigts.
Par les doigts aussi, parce qu'il faut sélectionner. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui sur le MetaQuest, on a déjà de la navigation avec les mains. Mais en fait, on met la main devant son champ de vision et en fait, on va voir sa main avec un pointeur bleu qui sort. On met le pointeur bleu sur une icône. Et on sélectionne pareil, mais par contre, la main doit toujours être levée en l'air pour attraper des choses. Là, l'idée d'Apple, c'est que la main, vous la mettez dans votre poche, vous la mettez posée sur le canapé, vous avez juste à regarder un endroit et ça marche tout seul. Et ça marche tellement bien qu'en effet, je trouve que c'est une vraie révolution. Après, sur le reste, l'interface, elle ressemble beaucoup à celle de Meta, les applications ressemblent beaucoup à celle de Meta, mais ils ont deux forces, c'est leur écosystème. Sur le MetaQuest, j'ai pas la possibilité de voir la photo que j'ai prise avec mon iPhone il y a 5 minutes. Sur le Vision Pro, c'est automatique. Pareil pour les iMessage, pour toutes mes applications en général. Et après, quand on coûte 3,5 fois plus que les autres, on peut se permettre d'avoir des meilleurs composants. Et c'est la première fois que j'essaye un casque de réalité virtuelle où je ne vois pas les pixels, où la qualité est parfaite, où la profondeur de la 3D, elle s'étend sur 30-40 mètres. Donc c'est digne en fait de la vraie réalité, c'est pas un effet 3D, c'est de la pure 3D. Donc en effet, le produit technologiquement est abouti.
Mais on est d'accord que c'est une vitrine technologique finalement. On a presque l'impression que ce produit est pas fantôme, mais
c'est un mix de beaucoup de produits d'Apple. On a un peu d'Apple Watch, on a un peu de AirPods, on a un peu d'écran, on a du Mac, on a tous les produits dans ce masque casque. Apple l'a jamais dit d'ailleurs masque casque. Ils disent juste Vision Pro.
Ordinateur spatial. Voilà. Ils en ont un peu. Mais c'est malin ça.
Ouais. C'est très malin.
Et
parce
l'informatique spatiale, c'est cool en fait. Et c'est pas mal. Enfin, ça explique un peu le concept.
Mais je pense que c'est un terme qu'à terme justement on utilisera souvent en disant attends, j'ai mon ordinateur spatial qui est là, je le prends à la place de mon ordinateur classique que je peux avoir ici, qui est portable ou fixe. Et je pense vraiment que dans 5-10 ans, ça va vraiment être un standard parce que de ce que moi j'ai pu tester, ce qui m'a le plus surpris, c'est justement ces vidéos immersives avec cette profondeur de champ, cette perspective qui est incroyable et qu'on ne peut pas comprendre si on le teste pas, tellement on réalise pas. Moi, c'est vraiment comme si nos yeux étaient là et qu'on voit cette perspective.
Avec des écrans 4K de ouf, enfin des trucs incroyables quoi, qui font que tu ne vois pas les pixels parce qu'il y a la résolution est tellement élevée que même s'ils sont à quelques centimètres de tes yeux, tu vois pas les pixels.
Et la techno d'écran est inédite aussi.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais dans 5-10 ans, mais c'est fou quand même de se lancer dans une aventure pour Apple d'un produit. Enfin, on reprend l'iPhone. Le premier iPhone, a fait le buzz, etc. Il était quasiment inutilisable. Il n'y avait pas de 3G.
Oui.
Enfin, c'était vraiment un truc. Après, il y a eu le deuxième, l'iPhone 2, 3G. Etc, etc. Et là, ça commençait. Mais il a fallu quoi? 2-3 ans?
L'iPhone 4 en 2010 qui a vraiment, je pense, installé les bases.
Ouais. L'iPhone 3G est un immense succès. Le succès de Noël.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2-3 ans, d'un coup, c'est devenu un produit mainstream. Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que dans 2-3 ans, ce produit ne sera pas un produit mainstream.
Il sera peut-être même pas sorti.
Oui, il sera peut-être même pas sorti partout.
Mais donc, ça veut dire qu'Apple. Ah,
c'est
évidemment.
C'est inédit dans leur
approche. Si nous on le dit, eux, ça fait des années qu'ils le savent. Ils ont dû payer des études incroyables pour savoir jusqu'où ça va aller, combien de temps ça va mettre avant qu'on ait tout ça sur la tête. Et ils savent que c'est dans 5-10 ans, c'est ce que tu dis. Ouais, et moi, ce que je trouve fascinant, c'est le fait de se dire, on appuie sur un bouton. Et on sait pas trop quand on va y arriver, mais il faut y aller maintenant parce que on sent que c'est une voie qui mérite qu'on s'y mette maintenant. C'est fort.
C'est ça leur ressemble.
C'est très courageux
pas,
aussi. Surtout.
Mais je trouve ça très courageux.
Comme Zuckerberg d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. Mais Zuckerberg finalement est un des pionniers là-dessus. Après,
bien sûr. Apple et je pense qu'il est très
Apple est meilleur pour vendre l'idée.
Il est très heureux qu'Apple investisse et se mette sur ce marché-là. Pour lui, c'est un peu une bataille.
Les grands gagnants, c'est eux. Si le Quest 3 qui va être annoncé à l'automne a un bon prix, enfin on sait qu'il a déjà un bon prix, mais qu'en tout cas qu'il est réussi du point de vue de la réalité mixte, je lui prédis un immense succès à Noël. Et même Meta, à mon avis, ne s'attend pas à un aussi gros succès.
Dès cette année. Moi, je verrais plus quand.
Oui, parce qu'il y a la hype posée par Apple.
Ouais, je suis pas sûr.
Je pense la hype là, je suis pas d'accord avec toi. Petit à petit, quand même.
Oui, ça va redescendre. En fait, il va falloir qu'ils recommuniquent sur ce casque.
Je pense que c'est trop tôt encore. C'est encore trop tôt.
Je serais pas étonné que ça fonctionne bien.
Aujourd'hui, pour les
500 €, 500 € pour un casque de réalité mixte, c'est les gens. On peut se dire ça peut être un bon cadeau de Noël pour la famille. Ouais. C'est pour jouer et ça sera toujours moins cher que le casque d'Apple. Enfin, c'est même 7 fois moins cher, même plus.
Je pense que c'est un peu trop tôt. Je pense qu'il faudra encore attendre la miniaturisation de ce truc-là, parce que malgré tout, même si le Quest Pro est top et on peut imaginer que le nouveau soit inspiré du Quest Pro, ça sera toujours un casque un peu imposant,
ça sera toujours un peu gros.
Voilà. Bon, enfin bref. Mais on verra, ça va être intéressant.
Non, ça va être intéressant.
Comment ça va se passer.
Mais pour terminer, je pense juste que le commun des mortels aujourd'hui, le grand public, s'imagine qu'un casque, c'est fait pour faire du métavers, pour faire de la VR, qu'on est tout seul dans sa bulle et que c'est pas joli. Donc je pense pas que dès cette année, ça va relancer une mode. Je pense que ça va attendre qu'Apple sorte son produit, que les gens se disent OK, c'est sympa, parce qu'Apple a quand même cette force de dire que ce qu'ils font, ça marche bien. Et après, ça va relancer la mode. Mais je pense que ça va pas être le cas avant 1 ou 2 ans minimum, que les casques comme tout ce méta prennent un step up en vente.
Mais ça va être la folie parce que je sais pas si vous avez suivi le truc. En fait, ils voulaient en produire 1 million en 2024, mais en fait, ils vont en produire que 400 000 parce que les.
Et au début, c'était plus qu'un million d'ailleurs.
Ouais,
pendant longtemps, c'était plus qu'un million. Au moment du lancement, ils étaient 1 million, et là, c'est encore.
Là, on est à 400. Enfin, d'après ce que j'ai lu, c'est 400 000. Les fournisseurs s'arrachent les cheveux parce que c'était un truc hyper compliqué à fabriquer. J'imagine la supply chain, ça doit être un enfer. Les écrans 4K de Sony, je crois qu'ils ont du mal à les produire parce que c'est vraiment des trucs de fou quoi. Et donc ce casque va s'arracher parce que même à $3,500,
Les 400 000 exemplaires, hein. Non mais oui, ils vont les vendre, je suis pas inquiet pour eux.
Mais
le problème c'est que on vendre 400 000, 1 million d'exemplaires, c'est facile. Convaincre convaincre 10% des utilisateurs d'iPhone d'en acheter
un,
ça c'est autre chose. Et c'est là où
mais bon, ils ont le temps. On peut faire l'analogie avec l'Apple Watch, non?
Ouais, clairement.
Ouais. Oui, sans doute.
Ils sont perdus dès l'annonce, c'était sur envoyer des tapes sur l'Apple Watch. Ils ont tout supprimé et finalement, 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, ils ont revu les bases et c'est la santé, les notifications. Et je pense qu'ils ont appris avec le temps et ils apprendront beaucoup avec le temps, avec l'influence, je pense.
Et je pense que l'Apple Watch n'aura jamais le succès d'un iPhone. Parce qu'il y a des gens qui, et moi le premier, j'ai du mal à porter des montres, j'aime pas ça. Mais il y a des gens comme ça.
Il y a des gens comme ça, absolument.
Et puis il y a des gens qui aiment bien. Mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est quand même assez clivant, une montre. Tu vois, tu peux pas, c'est pas comme un iPhone où t'es obligé, d'en avoir un. La montre, tu peux t'en passer. Mais c'est intéressant. Et je pense que
la tablette aussi, finalement.
Oui.
L'iPad, aujourd'hui, ça marche.
Non, mais t'as raison.
À terme, je pense que l'iPad.
T'as raison, c'est pas indispensable.
Ouais.
C'est pas un produit indispensable, c'est clair. Vision Pro, on verra bien ce qui va se passer. Je pense que là, les développeurs doivent commencer vraiment.
On va pas tarder à le recevoir là.
Ouais.
Ça va pas tarder les premiers envois développeurs.
Là.
Ça va être cool.
Dans l'actu aussi, alors quelque chose d'un petit peu moins heureux, mais qui à mon avis mérite qu'on s'y attarde, c'est en fait cette frénésie des constructeurs chinois qui de smartphones, j'entends, qui depuis quelques années inondent le marché européen, les Xiaomi, les OnePlus, les Realme, les Vivo, j'en passe et des
Honor,
Honor, etc.
Honor, ouais.
Huawei qui s'en va gentiment parce que évidemment avec le ban US, ils n'ont vraiment plus de sens de fabriquer des smartphones parce qu'il n'y a plus Google dedans. Mais parmi tous ces acteurs, il y en a un que j'ai pas cité, c'est Oppo, qui était sans doute celui qui arrivait à tirer le plus son épingle du jeu dans ce marché ultra concurrentiel, qui investissait beaucoup d'argent, qui fait de très bons téléphones aussi. Il faut pas,
pas
se voiler la face. Les très hauts de gamme d'Oppo sont souvent des références en termes de photos, etc., etc. Et là, on a appris, c'était quoi, fin d'année dernière, que Oppo quittait l'Allemagne. Et là, ils sont en train de quitter la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur le site d'Oppo, vous pouvez plus acheter un smartphone Oppo. Vous allez dans les boutiques des opérateurs ou dans les grands magasins, il n'y a plus de téléphone Oppo.
Ou alors en déstockage. Donc mes amis de Frandroid ont vu un Oppo qui normalement coûte 400 à 79 euros, bradé pendant les soldes.
Incroyable. Et Oppo est en train, en catimini, de quitter le marché européen. Alors ils sont toujours présents en Italie et en Espagne, je crois.
Ouais, pour l'instant.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, c'est en effet un peu
inédit, cette situation. On n'a jamais vu ça.
On a vu des constructeurs partir. On a rarement vu un constructeur sur la pente croissante partir. Et c'est là où ça change un peu. En effet, tu l'as dit, Oppo, ils se sont positionnés très rapidement sur le haut de gamme des constructeurs chinois, qui était une place prise par Huawei. Donc au début, ça n'a pas très bien commencé. Et puis Donald Trump est arrivé, il a donné un sacré coup de pouce à toute l'industrie. Huawei est parti, donc Oppo a pu devenir le constructeur haut de gamme chinois, avec Xiaomi qui a pris entrée, milieu de gamme et tout le reste. Les autres, en effet, il y en a trop. On l'a toujours dit, quand j'étais sur tes émissions pendant longtemps, j'ai toujours dit que on pouvait pas avoir Realme, Vivo, TCL, OnePlus, plein de marques. C'était destiné à un moment ce marché à se bouffer. Mais Oppo et Xiaomi semblaient bien partis pour être les deux survivants. Et à terme, moi, je voyais le marché avec 4-5 acteurs, dont ces deux-là. Ce qui se passe, c'est en fait, c'est juste une question légale. C'est que, comme beaucoup de marques, Oppo utilise la 4G et la 5G, que c'est des brevets qui sont détenus par Nokia, que Oppo n'a pas payé, que Nokia a attaqué Oppo en justice dans plein de pays, dont l'Allemagne, la France, etc. Et en fait, je n'ai plus les chiffres. J'ai essayé de les retrouver avant l'émission, mais je les ai pas retrouvés. Mais je les avais lus à un moment la somme que réclame Nokia par an à Oppo est équivalente à je ne sais pas combien, mais au moins 10 fois son chiffre d'affaires annuel en Europe. Ah ouais. Donc en fait, la réalité, c'est que soit on est sur une question d'image, donc on dit ok, bah je reste présent parce que je suis une marque chinoise puissante, je dois rester
et
en Europe. Hyper important d'être
j'assume
là.
J'assume et je paye.
Et je paye, dans ce cas-là, je dépense. Soit on se dit, bah en fait, la réalité, c'est que l'Europe, c'est 2% de mon chiffre d'affaires, c'est la Chine qui me rapporte 70% de ce que je gagne, l'Inde et d'autres pays asiatiques. Qu'est-ce que je fous là? Genre, je vais pas me ruiner alors que je peux gagner de l'argent avec la Chine. Donc ils sont partis de l'Allemagne parce que c'était là où le procès a eu lieu au début. Et maintenant, petit à petit, ils vont
sans doute se
désengager.
En fait, parce qu'il va avoir sans doute jurisprudence, c'est-à-dire que s'il y a eu cette condamnation en Allemagne, elle arrivera en France. Ils anticipent en fait tout ça, j'imagine.
Et oui, ils doivent avoir des conseillers juridiques. Que ça peut pas leur apporter pour l'instant. Mais ce qui est fou,
et puis c'est il y a cette confrontation Chine-Europe, c'est-à-dire que Nokia c'est une boîte européenne.
Il y a aussi ça, c'est qu'ils peuvent pas gagner ce bras de fer là.
Ils ne peuvent pas le gagner.
Ce qui est terrible, c'est qu'Oppo était partenaire majeur de Roland Garros depuis plusieurs années. Ils sont depuis cette année partenaire majeur de la Ligue des Champions, quand même le plus gros événement de sportifs européens tous les ans. Donc voilà, ils ont investi des centaines de millions pour rien. Ils ont investi énormément, tout semblait avancer petit à petit, mais en bien. Ils ont déménagé leurs locaux parisiens, ils ont pris une tour à la Défense, ils sont installés en début d'année. Donc franchement, même pour les équipes d'Oppo France, j'ai de la peine aujourd'hui parce que elles n'ont rien vu venir. On leur a toujours assuré sur la question, non, vous inquiétez pas, sur les brevets, sur l'Allemagne. Enfin, il y a peu de chances que ça nous concerne. Et ben voilà, on en est là aujourd'hui et tout ça se passe hyper brutalement et pour une raison juste légale.
JB, incroyable cette histoire.
Selon les sources officielles, Oppo quittera pas la France.
C'est ce qu'ils disent.
C'est que Oppo restera en France et que tous ceux qui ont des Oppo, ça continuera à marcher. Il y aura toujours du SAV qui existera. Donc je sais pas qu'est-ce que ça signifie vraiment de quitter la France en
restant. Fermer les bureaux. Parce qu'ils ferment les équipes françaises. En fait, si j'ai bien compris, le plan actuel est d'opérer le marché Oppo France depuis un autre pays ou quelque chose.
Quand tu retires tous les téléphones, c'est qu'il y a un souci, quand même.
Oui, non, mais en fait, c'est.
Non, mais on est d'accord.
Huawei a passé 3 ans à me dire face à face, mais non, nos smartphones vont super bien, on cartonne, alors qu'ils avaient perdu 99% de parts de marché. Je pense que c'est une question de garder la face. Il y a sans doute un peu le vrai, en effet, Oppo va pas complètement fermer du jour au lendemain. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va sur Oppo.fr, il y a plus de téléphones vendus, la Fnac et les partenaires majeurs ne sont plus rémunérés par Oppo. Il y a plein de publicités qui n'ont pas été payées, qui devaient être payées, qui ne l'ont pas été. Wow. Donc il s'est passé quelque chose.
Non, mais tu vois,
regarde exactement ce qui s'est passé. Mais
tous les utilisateurs de smartphones Oppo qui ont cru en cette marque et qui ont acheté un téléphone, franchement, c'est pas terrible, quoi. Ils se sentent un peu trahis.
Je pense pas qu'ils soient déçus du téléphone en eux-mêmes.
Non, mais est-ce que tu auras des mises à jour? Est-ce que tu auras des mises à jour
autant qu'on
pourrait l'espérer? Est-ce que ton SAV sera assuré? Il y a toutes ces questions là, tu vois. Quand tu lances une marque de smartphone, t'es responsable aussi de enfin, t'as plein de responsabilités, quoi. Je trouve cette histoire lunaire.
Les équipes françaises européennes,
ce qu'il y a de fou, c'est qu'aujourd'hui c'est Oppo. Pourquoi demain ça serait pas Honor, par exemple? Pourquoi Nokia n'attaquerait pas Honor?
Je sais pas.
Tout est très opaque, en fait.
Moi, j'ai pour théorie que le marché du smartphone, il y a eu une grosse baisse de vente mondiale. C'est combien? C'est moins 13%.
Oui, là, évidemment. On n'a pas parlé du contexte.
Ça avait déjà baissé. Je pense qu'on a eu l'âge d'or il y a quelques années où on avait vu plein de constructeurs apparaître. En fait, là, quand on voit les chiffres, les gagnants, c'est Apple et Samsung. Apple, grand gagnant, ils arrivent à piquer de plus en plus d'utilisateurs. Il y a une petite crise pour le monde Android quand même. C'est pas normal que Apple gagne autant de parts de marché et qu'Android en perde autant depuis plusieurs mois. Donc Apple est très en forme. Je pense qu'en fait, on se dirige vers le retour du duopole Apple-Samsung avec Xiaomi qui va récupérer des miettes sur... Je pense que du Honor, du Google, ils peuvent continuer d'exister, mais que leurs chances de devenir géants sont en train de s'amincir. Ouais.
Et pourquoi les constructeurs chinois se concentreraient pas sur le marché chinois, parce que c'est là-bas où ils font le plus de ventes, et que dans le reste du monde, il reste que Samsung, Apple, et pourquoi pas Google, qui est quand même un acteur américain qui a énormément d'argent et qui essaie de chaque année quand même de grossir de plus en plus.
Ça serait intéressant. Ça serait je pense que les marques chinoises veulent s'étendre et c'est normal. On peut pas. Franchement, moi, j'ai longtemps dit quand je voyais les tests des Américains qui ne raisonnent que au titre de il y a que Apple et Samsung dans la vie parce qu'ils connaissent rien d'autre. J'ai longtemps dit qu'on avait beaucoup de chance en Europe de savoir qu'il existe des alternatives parce que quand on est quand on a le prisme américain, on a l'impression que l'iPhone est le meilleur en photo. Alors que quand on était en France, on savait que Huawei ou Oppo étaient capables de faire beaucoup mieux et on avait cette chance-là de connaître des produits qui étaient dispo qu'en Chine. J'ai un peu peur que avec le temps, finalement, en effet, t'as raison. Les marques chinoises se recentrent sur l'Asie et laissent l'Europe de côté.
Parce que la grosse force de Google, c'est l'IA, justement. Les photos du Google, c'est pas les meilleurs capteurs, mais par contre, les photos sont juste géniales.
C'est
dingue. Et ça, le grand public
Google
commence à
comprendre. Google a potentiellement des chances, c'est possible.
S'ils
mettent les moyens,
il faut qu'ils mettent le paquet.
Surtout qu'on le voit, et t'en as parlé, il n'y a aucune évolution technologique dans les smartphones vraiment véridique depuis 4-5 ans.
Ça
tourne en rond. Donc c'est pour ça aussi que les smartphones se vendent moins. Les gens ont moins d'argent, ils se sont fait plaisir pendant le confinement parce que ils avaient un peu plus peut-être de moyens et qui ont fait qu'ils ont changé leur téléphone. Aujourd'hui, tout est pareil, les iPhones sont tous pareils et finalement Oppo, quand ils se sont lancés sur le marché, ils ont sorti des smartphones qui étaient très chers. Et c'est peut-être pas la bonne façon de s'implanter dans un marché que d'arriver sur un truc très cher.
Et comme le disait très justement JD qui réalise cette émission, c'est LG qui s'était retiré du marché du smartphone il y a quelques années.
Aussi, mais bon, ça marchait pas.
Mais voilà, ça marchait pas. Ça marchait pas.
Ils auraient dû se retirer 5 ans avant, ça aurait été peut-être
Et je crois que c'était une ambition. Enfin, je crois qu'il y a même plus de smartphones LG, même en Corée, non?
Ils ont tout arrêté.
Et à l'inverse, il y a Motorola qui revient.
Et Motorola qui revient.
Et qui fait des bons produits.
Et qui fait des produits sympas. C'est vrai. Il nous reste 4 minutes, les amis. On évoque rapidement Netflix. Avec la fin du partage de comptes, ça c'est quand même au départ une mauvaise nouvelle. Mais finalement, c'est pas une aussi mauvaise nouvelle que ça. Nicolas.
En tout cas pour eux, ça l'est pas. C'est évident. Netflix, ils étaient. Faut le rappeler, on a tendance à l'oublier. Netflix l'année dernière a traversé une période de crise qui était hyper inquiétante. L'action s'est effondrée. La direction était menacée. Il y avait des rumeurs de rachat. On disait est-ce que Apple va racheter Netflix, par exemple. Ça s'est posé cette question.
Oui, c'est vrai.
Et là aujourd'hui, tout va bien. Les chiffres sont trop bons. Ils ont gagné 6 millions d'abonnés le trimestre dernier. Donc Netflix est vraiment de retour en force. Pourquoi? Parce qu'ils ont opéré deux changements. Le premier, c'est la publicité. Ils ont toujours dit jamais de la vie, il y aura de la pub sur Netflix. Et en fait, ils se sont rendu compte qu'il a suffi de prononcer lors d'un appel avec les investisseurs, on réfléchit à une offre avec publicité pour que l'action s'envole. Donc du coup, ils l'ont lancé. La pub, ça rapporte de l'argent parce qu'il y a quand même pas mal de pubs dans cette offre-là. Et donc, ça y est, ils sont repartis sur une pente croissante. Et les investisseurs leur ont aussi dit, il y a quand même un vrai problème avec ces gens qui squattent les comptes et qui payent pas. Donc Netflix a dit, on va leur faire plaisir. Et donc, ils ont mis fin officiellement au partage de comptes et ils forcent finalement les gens à avoir leur propre compte avec des petits messages qui font un peu peur, en mode vous êtes pas chez vous, faut payer. Bon, la réalité, je suis désolé si vous avez payé, c'est que c'est du bluff. Si vous cliquez sur je suis en voyage, ça va vous envoyer un code par message, vous mettez le code et Netflix va continuer de fonctionner. C'est pour l'instant pas du tout bien implémenté cette histoire, mais ça a fonctionné, plus 6 millions en un trimestre. Netflix n'a jamais eu autant d'abonnés en 3 jours après la fin du partage de comptes, c'est réussi.
J'imagine que t'es abonné à Netflix, ou je sais pas si tu partages tes comptes et tout, mais moi évidemment on partage. Mais moi mon compte n'a pas été impacté en fait par ce.
Non, je crois que c'est que sur télé. Si les gens à qui tu le partages sur télé. Moi j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont dit je l'ai eu, qui ont paniqué.
Ouais. Et moi j'ai rien eu. Tu vois, et pourtant j'ai des comptes un peu partout en France là.
Des accès.
J'ai pas eu de.
Je pense que ça dépend des gens.
De warning vraiment. Ou de choses comme ça, ou peut-être qu'ils font ça par vague aussi.
Je sais pas. En tout cas, il s'est déployé en France.
JB. Moi
j'utilise Netflix pas si souvent que ça parce que je trouve que les contenus sont un peu tout le temps pareils. Donc bon, d'accord. Voilà. Et finalement moi je partage pas mon compte à non plus 15 milliards de personnes. Donc ça me concerne pas beaucoup, mais je trouve que tout ce que tu as dit en fait a 100% raison, que on peut toujours un peu contourner les lois en regardant ce qu'il peut y avoir par les mails, et surtout que Netflix finalement a eu raison de lancer dans l'abonnement publicité parce que ça rapporte et qu'ils suivent tout ce que les investisseurs peuvent dire et c'est un modèle économique comme un autre, ils ont raison de le faire, ça marche.
Ouais, c'est clair. Après, j'ai jamais vu comment ça fonctionnait, s'il y avait beaucoup de pubs, par exemple, sur la version
pub de Netflix. Alors, j'ai l'info, mais alors là, je crois qu'à 20 minutes... Non, s'il y a une pub toutes les 20 minutes à peu près et qu'il y a l'équivalent
de... Je crois que c'est 4 minutes par heure.
Ouais, j'allais dire 3 minutes par heure, mais ça doit être 4 minutes par heure. Ce qui est beaucoup, c'est pas mal.
Mais par exemple, ce qui est très très peu par rapport aux médias américains qui eux sont à 18 minutes de pub par heure.
C'est plutôt dans les standards de la télé française, mais du coup pour les Américains c'est super bien.
C'est vrai, et je pense que les Américains finalement 4 minutes de pub par heure, ils ont tellement l'habitude d'avoir 18 minutes que finalement même en payant ça doit passer crème.
Oui mais c'est pas cher, hein. C'est quoi, c'est 6 euros par mois non, j'ai une bêtise. Si, c'est ça, 6 euros par mois.
Cet abonnement,
5,99.
Il n'est pas en 4K le contenu.
Non, 1080.
Voilà, donc en fait.
Et deux écrans, tu peux le partager.
Ouais. Mais bon, on paye pour avoir de la pub et en plus on n'a pas la meilleure des qualités.
Ouais, c'est vrai. Oui, mais si tu compares, parce que là, ils sont en train de tuer l'abonnement essentiel partout dans le monde.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que là, dans quelques semaines, on aura le choix entre ça à 6 euros ou la même chose sans pub à 14 euros.
Ouais.
x2, hein. Genre, tu te prends un x2, plus x2, juste pour enlever la pub.
Ouais, mais t'as la 4K, tu t'as 4K.
Non, sur deux écrans, t'as pas la 4K. C'est la même chose. C'est le même abonnement, mais le 4 écrans, c'est 18, 17, 49.
Ah oui, c'est ça, pardon. T'as raison. Donc c'est vraiment l'abonnement haut de gamme.
Donc c'est la même chose sans publicité. Enfin, plus du double, hein.
Vous, ça vous intéresserait d'avoir une coupure pub toutes les 20 minutes, à peu près, quand vous regardez votre série ou votre film sur Netflix?
Moi, ça me saoulerait. Ouais,
je pense que ça me saoulerait.
Déjà qu'on voit sur YouTube, mais ça nous saoule d'avoir de la pub.
Ah, YouTube, j'ai YouTube Premium pour les films, moi.
Mais culturellement, nous, en France, on est un peu plus allergiques à la pub que les Américains qui, en bouffent à longueur de journée, quoi. Mais c'est vrai que...
Mais la réalité, c'est que ça, même en France, ça fonctionne, hein.
Ouais, ça marche. Bien sûr, bien sûr. Bon ben voilà, le partage de compte Netflix, peut-être allez-vous en profiter pour vous regarder plein de séries, après De Quoi Je Me Mêle bien sûr, et après le contenu de Tech & Co, après le contenu de Numérama, et après les vidéos de JB The Zoe Collection. On vous autorise,
un bon programme,
après tout ça, à regarder Netflix. C'était un vrai plaisir que de vous retrouver et de passer toute cette saison encore une fois avec vous. Merci à Nico.
Merci à toi, c'est ravi d'avoir été là pour cette dernière de la saison.
Mais tu sais que tu es toujours le bienvenu, Nicolas Lelouch, donc de Numérama, et puis JB de The E-Collection.
Bah, ravi aussi d'avoir été là pour la dernière de la saison.
C'est cool.
Et on se retrouve dans quelques mois.
Exactement. Portez-vous bien, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. On se retrouve très vite à Berlin, si tout va bien, puisque ce sera l'IFA, ce grand salon dédié à la tech, comme chaque rentrée, on y sera. Bonnes vacances encore une fois à vous toutes et à vous tous, et à très très vite.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech & Co.